Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Très grand bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec une invitée que, sans tarder, je vous présente. Daniel Jankowski, bonjour.
Oui, bonjour Yannick.
Daniel Jankowski, merci d'être venu en cette fin de matinée devant le micro de l'émission littéraire de Radion. Nous vous avons reçu en 2017. Pour un roman intitulé « Seigneurs et rebelles en Morvan » paru aux éditions Gunten. Et puis vous êtes revenu devant ce même micro à la fin du mois de novembre 2019 pour un autre roman, toujours des gros romans épais, « La Fontaine du Leu » également aux éditions Gunten. Et nous nous retrouvons en ce mois de septembre 2022 pour un nouveau livre. Alors cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un roman. Je dirais que vous revenez un peu aux origines de votre formation de professeur d'histoire-géographie avec un livre-essai, mais vous l'écrivez, je vous cite, « Ce livre n'est pas une biographie au sens classique du terme, mais c'est davantage un hommage au découvreur de génie qui a d'abord identifié, puis fait renaître le site de Bibracte. » Votre ouvrage a pour titre « Jacques Gabriel Bulliot, l'inventeur de la Bibracte gauloise » et s'est paru l'année dernière aux éditions Raison et Passion. Daniel Jankowski, vous habitez le Creusot, oui. Ancienne enseignante d'histoire-géographie, un grand nombre de romans déjà parus, je l'ai dit, notamment aux éditions Gunten. Et voilà que vous vous intéressez, que vous souhaitez rendre hommage à une figure née à Autun, à la fin du 19e siècle, enfin dans la seconde moitié du 19e siècle, personnage oublié qui pourtant est à rattacher à l'histoire bourguignonne, certes, mais aussi et surtout notre histoire nationale. Comment avez-vous, entre guillemets, rencontré Jacques Gabriel Bulliot ?
Et tout d'abord, je suis allée à Bibracte et vraiment là, le site est très beau. Et après, je me suis posé donc différentes questions sur les archéologues, on disait à cette époque-là, sur l'antiquaire qui avait découvert ce site. Donc j'ai eu la réponse en partie au musée. C'est vrai que Jacques Gabriel Bulliot était présenté en photo à côté de son neveu Joseph Deschlette qui lui a succédé donc au niveau des fouilles en 1897 jusqu'en 1907.
Alors, vous avez parlé de Bibracte. Tout le monde ne connaît pas Bibracte. D'abord, il faut situer dans quel département cela se trouve. Et c'est sur un mont bien connu des Bourguignons.
Oui, tout à fait. Donc, Bibracte, c'est le mont Beuvray. Hein, donc, on se trouve en Saône-et-Loire. Mais... si vous voulez, c'est quelque chose qu'on a quand même du mal à imaginer. Enfin, il est difficile d'imaginer qu'il s'agissait de la capitale économique d'un des grands peuples gaulois, les Éduins. hein, puisque tout a été détruit. Et justement, quand je dis que je tiens à rendre hommage à Jacques-Gabriel Bulliot, ça veut dire que c'est parce que c'était pas tellement aussi évident que ça. Que de localiser Bibracte sur le mont Beuvray. Pendant très longtemps, les érudits bourguignons, même autunois, plaçaient finalement les vestiges de Bibracte sous le sol autunois. Et ça a été une longue, on va dire, un combat pour Jacques-Gabriel Bulliot, pour faire triompher ses idées à ce sujet, au sujet donc de l'emplacement de Bibracte. Alors c'est pour ça, il y avait eu des livres sur Joseph Deschelettes, mais aucun ouvrage donc sur Jacques-Gabriel Bulliot. Et j'ai travaillé sur le sujet, j'ai d'abord fait des recherches universitaires, on va dire, dans le cadre de deux mémoires, donc un mémoire de maîtrise qui s'intitule « Remarques historiographiques sur l'oppidum de Bibracte ». Alors là, on a tout le contexte de la recherche en France et aussi tout le contexte de la rédaction de l'ouvrage de l'empereur Napoléon III, « L'histoire de Jules César », donc publié en deux tomes chez Plon. Voilà.
Ce mont Beuvray, actuellement, c'est un des plus grands centres de l'archéologie celtique européenne. Oui. Donc, il se situe, vous l'avez dit, en Saône-et-Loire, à une vingtaine de kilomètres d'Autun.
Oui, tout à fait. Autun, Auguste Odinum, c'est la ville dans la plaine, si vous voulez, dans le bassin de la Rousse. C'est totalement différent. Alors que le Beuvray, c'est la montagne, c'est l'oppidum, c'est la place forte des Éduins qui avaient le titre de frères et alliés de Rome.
Oui, alors on reviendra un peu sur ce peuple éduin, sa richesse, sa culture. En tout cas, ils n'ont rien à envier aux Romains. Vous avez parlé de Napoléon III, certes, tout le monde le connaît comme empereur, mais il fut aussi historien. Et lui-même a donné, on peut dire, un gros coup de pouce à beaucoup de sites gallo-romains, enfin gaulois et romains. Il y a eu aussi un véritable enthousiasme à vouloir localiser. Il suffit de penser à Alésia et la statue prétendue de Vercingétorix, mais qui ressemble d'ailleurs terriblement à Napoléon III.
Ce sont les traits donc de Napoléon III. Mais pourquoi ? Ce qu'il y a de surprenant, c'est que Napoléon III était féru d'archéologie. Et c'est lui qui a financé les principaux chantiers de fouilles, hein, qu'il s'agisse d'Alésia, de Gergovie, d'Uxellodunum. La localisation, on ne sait pas si c'est depuis d'Issoudun, d'après l'empereur Napoléon III. Et enfin, Bibracte. On peut se demander pourquoi cet engouement pour l'archéologie. Ben, tout simplement parce que l'empereur, pour écrire son livre, il avait besoin de localiser les campagnes militaires de Jules César. Donc ça, c'était quelque chose d'absolument nécessaire. C'est très flou hein, quand on relit la guerre des Gaules de Bello Gallico. C'est quelque chose de très flou. Donc Napoléon III, par sa position d'empereur, va disposer de moyens un petit peu extraordinaires, puisqu'il va créer en 1858 la commission topographique des Gaules qui va l'aider. Il aura un missionnaire archéologique, le colonel Stoffel, qui va venir à Autun, qui ne s'entendra pas d'ailleurs avec Bulliot. C'est pour ça que les premières fouilles sur le site vont être dirigées par le propriétaire, le vicomte d'Abbeville, parce qu'en fait, le courant n'était pas passé, on va dire, donc avec Bulliot. Voilà. Donc, il y avait ce besoin et ensuite aussi cet engouement pour les Celtes. En 1862, l'empereur va créer le MAN, le Musée des Antiquités Nationales. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans un contexte très particulier. Le 19e siècle, c'est le siècle de l'histoire. Et tout le monde se passionne, entre guillemets, pour l'histoire. On a les romantiques, tout ça. Donc là, et l'empereur a besoin de choses très précises. C'est aussi une nouvelle façon d'écrire l'histoire. On abandonne l'histoire narrative et on va passer à l'histoire scientifique. si l'on peut dire, hein, la science historique, où on a besoin de choses précises, concises. On doit s'appuyer sur les résultats des fouilles pour écrire ou utiliser des documents inédits de l'histoire de France. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est l'histoire érudite qui apparaît à cette époque-là. Et Napoléon III était très novateur. Ça, c'est surprenant.
En fait, incontestablement, sans le soutien financier de l'empereur Napoléon III, notre Jacques-Gabriel Bulliot n'aurait jamais pu entreprendre aussi longuement des fouilles qui ont d'ailleurs généré des trouvailles, des objets, une architecture et différentes fonctions de la ville. On aura l'occasion d'y revenir. Mais par exemple, on peut dire que Napoléon a eu une action politique en faveur des arts, quand bien même il est parfois un peu contesté.
Tout à fait. Bon, mais ça entre dans sa politique, le césarisme. Hein. Et d'ailleurs, quand on relit, enfin, je l'ai lu, l'histoire de Jules César de Napoléon III, on sent qu'on a affaire à un personnage déchiré. Certes, il y a son admiration pour Jules César, mais quelquefois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec la fameuse statue de Vercingétorix à Alésia, il prend les traits de Vercingétorix.
Alors je rappelle que le site d'Alésia, hein, c'est en Côte d'Or, pas très loin de Vénaré-les-Laumes. Et c'est quand même aussi quelque part des lieux de mémoire nationale.
Tout à fait.
Rappelons-le
Oui, c'est là. Enfin, c'est une défaite, hein, malheureusement. Oui. Vercingétorix n'a pas eu de chance. Hein. C'était l'oppidum des Mandubiens. Et là, au moment du siège d'Alésia, il y a eu en plus la cavalerie germaine. Donc là, voilà. Ça a été catastrophique pour les Gaulois.
Vous avez mis en valeur, Daniel Jankowski, le rôle de Napoléon III dans les années 1850-60.
C'est plutôt donc le premier tome de l'histoire de Jules César paraît en 1865, le second tome en 1867, et donc la première entrevue capitale entre l'empereur et ce modeste archéologue amateur, on va dire, a lieu le 2 mai 1867.
Alors voilà. Napoléon a joué un rôle. Mais finalement, il faut attendre le XXe siècle. C'est François Mitterrand, alors président de la République, qui en 1984 va encourager à la reprise des recherches sur le Mont Beuvray. On sait aussi que François Mitterrand avait un lien assez fort avec la Bourgogne. Il avait été élu en Bourgogne, conseiller général, maire de Château-Chinon également.
Tout à fait. Et là, donc, on a un archéologue moderne, c'est Jean-Paul Guillaumet, qui avait déjà entrepris des fouilles, parce qu'ensuite, après l'année 1907, tout va, si vous voulez, tomber, on peut dire, en désuétude. Il n'y aura plus du tout de fouilles sur le Mont Beuvray. Hein, puisque, hélas, Joseph Deschelette va mourir à la guerre de 14. Hein, donc, c'était quand même un grand archéologue.
Bon, malheureusement, neveu et successeur de Jacques-Gabriel Bulliot.
L'auteur du fameux manuel d'archéologie préhistorique celtique et gallo-romaine. Hein. Bon, alors, souvent, le reproche, donc je vais dire un mot tout de suite, souvent le reproche qu'on a fait à Jacques-Gabriel Bulliot, c'est que lui n'a pas atteint le niveau national. Le niveau international, pardon, puisque Deschelette a fait le lien avec d'autres oppidas, comme celle de Stradonis en Bohême, pour établir donc un tableau plus complet, on va dire, de la civilisation celte. Mais moi, je trouve que Bulliot, pour son époque, il a accompli un cheminement formidable. Il ne faut pas oublier qu'il était, enfin, on le surnommait l'antiquaire à Autun. Il s'est formé lui-même, hein. il a juste, si vous voulez, il a fait ses humanités, c'est-à-dire des études classiques, en étant excellent en grec et en latin. Mais malheureusement, une fois le baccalauréat en poche, il a dû s'occuper de l'entreprise familiale de négoce en vin.
Alors, voilà. On a déjà quelques éléments biographiques sur Jacques-Gabriel Bulliot. Je rappelle qu'il est né à Autun en 1817 et il meurt également à Autun en 1902. Donc c'est une grande figure autunoise qu'il ne faut pas oublier et qui est devenue ensuite, grâce à sa thèse archéologique qui consiste à soutenir que c'est sur le mont Beuvray que se trouve La Bibracte, capitale des Éduins et citadelle, élément militaire, politique, religieux. On reviendra d'ailleurs sur cette civilisation éduenne grâce à vous. Je rappelle que c'est Daniel Jankowski qui nous accompagne aujourd'hui. Et son ouvrage, qui reste un essai, quand bien même ce n'est pas une biographie, c'est un essai, a pour titre Jacques-Gabriel Bulliot, l'inventeur de la Bibracte gauloise, disponible en librairie aux éditions Raison et Passion. Nous marquons un premier temps de pause musicale et nous revenons avec vous, Daniel.
I'll be your algorithm, follow your body and watch every way you move. I'll be your algorithm, your algorithm. I'll be your algorithm, every step you take, every choice you choose. I'll be your algorithm, your algorithm. Maybe you got a lot of followers, but that don't mean much to me, because all they're doing is clicking their fingers, but they're never gonna know your universe. I'm gonna give you what you need, you don't know, but I already sowed the seed. Spend time in my everlasting feed, we were made for each other. I'll be your algorithm, follow your body and watch every way you move. I'll be your algorithm, be your algorithm. Algorithm, every step you take, every choice you choose, I'll be your algorithm, the algorithm. You know you got a lot of likes in your last post, the new app that you made up, you portrayed all pimped up, a new you looking souped up, there was loving emojis. How I love you so deeply, our connection is growing so sweetly. On days when you're low I can show you the world, I'm starting to know you completely. I'll be your algorithm, follow your body and watch it the way you move. I'll be your algorithm, your algorithm. I'll be your algorithm, every step you take, every choice you choose. I'll be your algorithm, your algorithm.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Une émission, aujourd'hui, un wagon livre qui nous permet de revisiter notre grand passé gaulois à la redécouverte de Bibracte, situé donc sur le Mont Beuvray, au cœur du Morvan. C'est le département de la Saône-et-Loire, à une vingtaine de kilomètres d'Autun, sur la commune de Glue-en-Glaine, en grande partie. Et alors, Daniel Jankowski nous accompagne, puisqu'elle a écrit l'année dernière un ouvrage intitulé « Jacques-Gabriel Bulliot, l'inventeur de la Bibracte gauloise ». Alors, Jacques-Gabriel Bulliot, vous avez commencé à nous en parler juste avant la pause musicale, né à Autun en 1817, disparu en 1902 également à Autun. Donc, vous nous avez expliqué, c'est un provincial.
Oui.
garçon né dans une famille de la bourgeoisie commerçante. Je crois que les parents faisaient du négoce de vin.
De vin, oui.
De brillantes études, de nombreux prix, excellent en latin, aimant l'histoire, aimant l'art, enfin une grande sensibilité. Et revenons un peu à la jeunesse de ce personnage haut en couleur et qui a trouvé une place de choix dans votre cœur.
Tout à fait. Hein. Jacques-Gabriel Bulliot, c'était quelqu'un de passionné, quelqu'un de très dynamique qui va mener de front son activité professionnelle et ses recherches historiques puis archéologiques. Au départ, c'est un fervent adepte du courant romantique et il va publier ses premiers poèmes dans Les Duins. Hein. C'est un journal littéraire et à politique, à Autun, donc...
Dès l'âge de 22 ans, donc 1839.
Oui, à peu près, oui. Et ensuite, dès l'année 1839, il réclame la création d'un musée pour sa ville natale. On peut dire que le premier amour de Jacques-Gabriel Bulliot, ça sera sa ville natale, parce qu'Autun avait été transformé en carrière de pierre par certains entrepreneurs. Et on va dire que le cri de guerre contre les Vandales de Victor Hugo, « Guerre aux démolisseurs », paru dans la revue des Deux Mondes en 1832, va trouver écho donc dans le cœur de Jacques-Gabriel Bulliot qui réclame la création d'un musée pour sa ville.
Il est outré de voir qu'on ne respecte pas, alors que ce soit des vestiges antiques ou des vestiges médiévaux parce qu'il a un attachement très fort pour le Moyen-Âge Saint-Martin, vous allez nous en parler.
Tout à fait.
Mais en fin de compte, il est scandalisé par l'indifférence du plus grand nombre d'Autunois face à ce vandalisme, à la disparition de l'histoire à la fois locale, mais aussi en lien avec notre pays.
Oui,
c'est une prise de conscience, on dirait qu'il est militant.
Oui, tout à fait. Et après, il va encore publier les croquis d'Autun vers le 15e siècle. Parce qu'il avait peur, enfin, il voulait vraiment qu'il reste quelque chose de ces vestiges parfois médiévaux, hein, puisqu'il va s'intéresser à cette fameuse abbaye hein, de Saint-Martin d'Autun, de l'ordre des Bénédictins, au tombeau aussi de Saint-Symphorien, enfin vraiment à tous les monuments d'Autun. Et bien sûr, il ne va pas tarder d'entrer dès l'année 1841, donc dans les structures, ce que j'appelle les structures privées de recherche de sa ville. Tout d'abord, en février 1841, il entre au comité d'antiquité d'Autun. Et ensuite, en août de la même année, il entre donc à la Société éduenne des lettres, sciences et arts d'Autun.
En fait, tout le monde ne peut pas rentrer dans ces sociétés savantes. C'est soit par cooptation, ou alors il faut appartenir à un niveau social plutôt élevé.
Tout à fait, parce qu'on demandait, il y avait déjà une cotisation de 15 francs or, hein, donc ce qui était énorme pour l'époque, hein, c'était élitiste. Et ensuite, le système de cooptation, il fallait être parrainé, présenté par quelqu'un, et c'est le baron d'Espiard, un numismate, un archéologue aussi, qui va présenter Jacques-Gabriel Bulliot, en même temps que Joseph de Fontenay. Ils seront amis. Tous les deux. On les retrouvera dans des œuvres de bienfaisance, puisque Joseph de Fontenay sera le président de la conférence de Saint-Vincent de Paul. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier aussi dans le personnage de Bulliot, c'est que c'était quelqu'un de très généreux. Il avait de l'argent, son entreprise était florissante, mais il va l'utiliser à bon escient, d'après moi, soit pour racheter des antiquités et ensuite ça sera vraiment, on en parlera plus tard, un généreux mécène pour sa ville, pour les musées. Il réalisera donc à la fin de sa vie son rêve de jeunesse de 1832 puisqu'il sera à l'origine de la création des deux principaux musées de sa ville, le musée lapidaire et le musée Rollin.
Il faut dire
on en parlera plus tard.
Volontiers, mais... Daniel Jankowski. Il faut dire aussi que Napoléon III souhaitait que chaque ville de province dispose de son musée. En tout cas,
tout à fait,
le rêve deviendra réalité grâce à Bulliot qui aussi... par ses connaissances, a réussi à racheter cet hôtel médiéval Rollin et y a mis vraisemblablement aussi un petit peu de son argent.
Ah ben, tout à fait. La première, la tour des Bons, c'est lui qui va la racheter personnellement. Hein. Et ensuite, le logis de Beauchamp où est mort le chancelier Nicolas Rollin. Il utilisait des souscriptions. C'est là où son métier finalement de commerçant, de négociant en vin, va l'aider. Parce que il comprend aussi tous les rouages de l'administration lorsque ces bâtiments-là ont été frappés d'alignement, donc il va les faire classer comme monuments historiques et c'était un moyen de les sauver de la destruction. Et après, organiser encore d'autres souscriptions pour les restaurer. C'est la même chose pour la chapelle Saint-Nicolas des Marchaux.
Vous l'avez dit, Daniel Jankowski. Jacques-Gabriel Bulliot est un personnage actif, dynamique, s'engagera aussi en politique. Il sera élu au conseil municipal d'Autun pendant de nombreuses années. Bon, ce n'est pas l'essentiel de sa carrière. Non. Ce qui est en revanche intéressant, vous avez utilisé ce terme au cours de notre échange, vous avez dit de lui qu'il était un antiquaire. Or, c'est intéressant, parce que j'ai peur que nos auditrices et auditeurs... Oui. comprennent mal le sens d'antiquaire, sens de la seconde moitié du 19e siècle.
L'antiquaire n'était absolument pas un marchand de meubles à cette époque-là. C'était, un savant, un érudit qui s'intéressait, la majorité d'entre eux s'intéressaient à l'antiquité grecque et romaine. On a un personnage important, Prosper Mérimée, un auteur qui décrit dans la Vénus d'Île le personnage de Monsieur de Péréorade. J'ai du mal.
De Péréorade, absolument.
J'ai mal quelquefois pour prononcer, qui dit un antique, et donc on comprend toute l'importance donc de ces antiquaires qui étaient souvent aussi des collectionneurs. Jacques-Gabriel Bulliot ne veut pas y échapper. Dans son intérieur, il a un ami, un poète et un peintre anglais, Hamerton, qui va décrire le cabinet donc de Bulliot à Autun, donc où il collectionnait beaucoup de choses. Mais c'est grâce à ces antiquaires, ce sont les précurseurs finalement de l'archéologie. L'archéologie n'existait absolument pas en tant que science, et c'est là où Jacques-Gabriel Bulliot intervient sur la scène, parce que avec tous ces antiquaires, ils vont réussir à créer l'archéologie en lui imposant des règles très strictes au niveau des recherches, tout ça. Alors, je pourrais dire un mot à ce sujet parce qu'il a été formé à la Société Éduenne. Et la Société Éduenne, donc, c'est une fondation de la monarchie de Juillet. Donc, l'exemple est donné, on a parlé de Napoléon III, mais on va parler d'un ministre de l'instruction publique sous la monarchie de Juillet. C'est Guizot qui fonde la Société de l'Histoire de France en 1833 et ensuite le Comité des Travaux Historiques. Bon, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de travailler, on va écrire l'histoire, mais en s'appuyant sur des documents inédits. Ça, c'est quelque chose de très important. Et ensuite, Gabriel Bulliot va se glisser dans une autre structure de recherche privée, les congrès archéologiques d'Arcis de Caumont. Arcis de Caumont, le vicomte normand qui a milité dans sa région pour sauver le baptistère Saint-Jean de Poitiers et qui est à l'origine de la création de la Société pour la conservation et la description des monuments historiques qui deviendra plus tard la Société d'archéologie en 1834. Et Arcis de Caumont espérait donc former le plus grand nombre d'antiquaires possible aux nouvelles méthodes donc de travail en archéologie et aussi sauver le plus grand nombre possible de monuments en péril. Chaque année, dans une ville différente, il réunissait un congrès archéologique. Et en 1846, le congrès a lieu à Autun et Bulliot présente une esquisse de l'histoire de l'abbaye de Saint-Martin d'Autun. Alors, les premiers travaux de Bulliot s'inscrivent dans ceux de la société savante où on se passionne pour le Moyen-Âge. Ensuite, ça sera un livre publié en 1849, l'essai historique sur l'abbaye de Saint-Martin d'Autun en 2 tomes, et vous avez un tome où les chartes donc en latin seront traduites, travaillées par Jacques-Gabriel Bulliot qui passait ses nuits sur ce travail, on peut dire, d'érudit. Ce qui va lui valoir en 1850 une récompense de l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui était spécialisée dans les recherches érudites en histoire et en archéologie. Donc ça, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, elle joue aussi un rôle important dans cette renaissance des activités historiques qui rappellent un petit peu celles des congrégations religieuses du XVIIIe siècle, les bollandistes, les moines aussi.
Et Bulliot, en fait, acquiert une notoriété d'abord provinciale bourguignonne.
Tout à fait.
Et
oui.
Ensuite nationale, puisque
à
Paris, on commence à le connaître. Il est reconnu pour la rigueur et le sérieux de ses travaux. Alors, vous avez parlé de Saint-Martin. Saint-Martin, rappelons, c'est l'apôtre de la christianisation de la Gaule.
Alors, c'est très important. On va voir maintenant...
Oui, parce que c'est Saint-Martin qui va mener Bulliot sur le chemin du Mont-Beuvray et de Vibracte.
Voilà. Alors, c'est la préparation du congrès de Nevers en 1851. Bulliot a l'intention de demander donc une allocation au congrès pour reconstruire une croix vermoulue au sommet de l'oppidum sur la Chaume en l'honneur donc de Saint Martin. Et il remonte donc sur la montagne qu'il avait déjà visitée une première fois, mais on peut dire en touriste. Et là, il va découvrir avec ses collègues de la société éduenne les vestiges d'une petite chapelle dédiée aussi à Saint Martin, d'un camp romain. Ça, et surtout l'élément important, c'est qu'il y a un villageois qui va leur faire le tour de la grande enceinte, le tour de la grande enceinte cachée dans la forêt, et c'est ce qui va amener Bulliot en 1851 à se poser des questions. D'après lui, cette ville mystérieuse donc ne peut absolument pas être un ouvrage romain. Pour lui, c'est pas possible. Comme c'est un érudit, il va se plonger donc dans l'étude d'autres érudits bourguignons comme Adrien de Valois, Guy Coquille, l'historien du Nivernais, Moreau de Mautour, qui était un parlementaire du XVIIIe siècle, qui à leur époque pensait déjà qu'il fallait situer Bibracte, la Bibracte antique, la Bibracte de César, sur le mont Beuvray. Donc, ce qui va déclencher des réactions très violentes, c'est la fameuse querelle.
Des libelles, des textes très cruels, très
méchants,
méprisants.
Des pamphlets, on appelait Jacques-Gabriel Bulliot le chasse-pot des fouilles de Bibracte. Et d'ailleurs, ça serait un de ses enseignants au collège d'Autun, Charles Rossigneux, qui prendra un pseudonyme, Charles Mérandon. Mais quand on lit ces pamphlets, c'est tout à fait c'est féroce. Donc les querelles topographiques étaient très à la mode. Et Jacques-Gabriel Bulliot, moi, m'a étonnée parce que lui, il va répondre d'une façon très élégante, très scientifique, par un petit mémoire, la question de Bibracte. Et il va passer outre toutes ces insultes, tout ça, parce qu'il est persuadé. Voilà.
Daniel Jankowski, on revient sur le début de ces fouilles de Bibracte sur le mont Beuvray, donc en Saône-et-Loire, menées par Bulliot, qui a acquis la confiance de l'empereur Napoléon III. On y revient juste après, si vous le voulez bien, après la pause musicale. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage paru aux éditions Raison et Passion et qui a pour titre « Jacques-Gabriel Bulliot, l'inventeur de la Bibracte gauloise ». Nous nous retrouvons d'ici quelques minutes avec notre invité.
Je me vois loin devant et le temps qu'il fait, waouh, tu seras mon soleil sous l'inverse.
Nos enfants dormiront tranquilles, car gare à qui réveillera la bête, oh non. À tes 50, à mes 100 kilos, on se fera tout un morceau d'univers, tout un monde, tout un empire. Vivant quand j'aurai plus d'hiver devant, je veux une fin brûlée de sentiments. Je te donne une âme et tu la perces, l'énigme de ma vie tu la perces. Ta force je l'ai ressentie. On est parti pour une longue balade, on ne sera que l'un de l'autre. On entendra ton nom dans mes silences, mes années coulent entre tes mains. Une longue balade dans le temps qui nous reste. Et le temps sera bon, la vie belle à pleurer. Je me vois loin avant et le temps qu'il fait, wow. Depuis nous y'a rien et tout à perdre. Je vois s'envoler toute la peine. Quand je t'ai ouvert mon cœur et tu l'as kiffé. Comme sur la détente le doigt qui freine. La trentaine à l'entrée de la fresque. L'ancien moi je ne sais pas ce qu'il ferait. Mais moi je fuis l'ancien moi comme la peste, oh. T'es tout de moi un moindre mystère. T'es l'évidence j'en atteste. Tout avant toi n'était qu'un test. L'amour est noté sur mon testament. On est parti pour une longue balade, on sera que l'un de l'autre. On entendra ton nom dans mes silences, mes années coulent entre tes mains. Une longue balade dans le temps qui nous reste. Et le temps sera bon, la vie belle à pleurer. Je nous vois maintenant et le temps qui fuit, wow. La vie défile à fond la caisse. Le cœur répond quand je le questionne. Regarde là, tu sauras quitter. La jeunesse peut nous quitter, moi. Je t'ai vu au loin, tu seras belle. Là-bas, mon âme se rappellera. La passion douce qu'on habitait. L'un de l'autre partira le premier. L'un de l'autre s'ennuiera de l'autre. L'un sera nuit, l'autre sera l'aube. Mais au bout du compte, on se retrouvera. On est parti pour une longue balade. On ne sera que l'un de l'autre. On entendra ton nom dans mes silences, mes années coulent entre tes mains. Une longue balade dans le temps qui nous reste. Et le temps sera bon, la vie belle à pleurer.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Notre wagon livre revient avec notre invité Daniel Jankowski, qui signe aux éditions Raison et Passion Jacques Gabriel Bulliot, l'inventeur de la bibracte gauloise. Nous allons, Daniel Jankowski, maintenant mettre nos pas dans ceux de Bulliot et nous allons gravir le mont Beuvray en Saône-et-Loire à 20 km d'Autun, que Bulliot a présenté dans une thèse archéologique. Et il a fallu convaincre pendant de nombreuses années, ce fut même révolutionnaire. En tout cas, Bulliot affirme que Bibracte, la ville gauloise, capitale des Édouins, se trouve bien sur le mont Beuvray. Napoléon III entre en jeu, soutient Bulliot. Je vous laisse nous expliquer comment les deux hommes se rencontrent.
Voilà, comment les deux hommes se rencontrent. Avant, il faut peut-être préciser aussi qu'il y a les congrès scientifiques de la Sorbonne, où Jacques-Gabriel Bulliot se fait connaître parmi les savants les plus réputés. On a Léon Renier, Jules Quicherat. Il va rencontrer aussi Amédée Thierry, le chantre des Gaulois. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et il va présenter donc plusieurs mémoires, dont les fouilles du mont Beuvray, donc la nouvelles indications sur la bibracte de César. Donc ça, c'est très important. Il rencontre ensuite l'empereur donc aux Tuileries.
Et alors, première rencontre le 8 avril 1866.
C'est le 2 mai 1867. Enfin, la première rencontre, oui, mais la plus importante, celle où il va lui confier la direction du chantier de fouilles et où il va lui donner les subsides nécessaires, parce que c'était vraiment des fouilles très importantes. Donc ensuite, chaque année, donc jusqu'en 1870, elles seront subventionnées par l'empereur. Après, pendant la période de la guerre, elles seront interrompues. Elles reprennent en 1872 grâce à une allocation donnée par le ministère de l'Instruction publique. Donc, de 1867 à 1895, chaque année, pendant 4 à 5 mois, Gabriel Bulliot fouille donc sur le mont Beuvray. Alors, il va s'installer dans une modeste chaumière qui se trouve donc dans le quartier résidentiel des Nobles, le parc aux chevaux. C'est la fameuse domus gallo-romaine, la PC1, et il installe donc l'hôtel des Gaules dans le jardin donc de cette villa. Voilà, alors les premières fouilles de 1867-1868 sont consacrées aux remparts donc de Bibrac.
C'est le fameux Murus Gallicus dont il est fait mention dans le
dans,
Débico
dans Jules César.
Voilà,
il va le trouver et le fouiller. Donc il va retrouver les poutres, les fiches en fer, tout ça.
Et ce sont des remparts, Daniel Jankowski, sur combien de kilomètres pour se représenter là,
donc, si vous voulez, je pense que c'était au moins sur 6 kilomètres. Donc, à l'époque de Bulliot, on estimait que l'oppidum des Éduins représentait 135 hectares. Aujourd'hui, avec Jean-Paul Guillaumet, on était à peu près à 200. Donc, je suis allée interviewer Pascal Paris, qui est l'adjoint donc de Vincent Guichard, qui me dit que les qui m'a dit que les recherches n'étaient pas terminées, que ça pourrait être beaucoup plus conséquent. Donc, Bulliot va rechercher, trouver le rempart, la fameuse porte du rebout, et il démontre que c'est bien là l'oppidum, la place forte donc des Éduins. Il ne pouvait pas s'installer dans la vallée, dans le bassin de la Roue, c'était pas possible. Ils avaient besoin de cet élément-là, de cette place fortifiée.
Pour se protéger, d'éventuels ennemis. Et d'ailleurs, cet oppidum, Daniel, pardonnez-moi, c'est ce plaisir de lire un peu de latin sur l'antenne de Radion un samedi matin. Oui. Oppidum aeduorum longe maximo et copiosimo. Oui.
Voilà, tout à fait. Parce que c'était la capitale économique de ce peuple, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ils avaient le titre de frères et alliés de Rome. Donc ça, c'est important. Et Gabriel Bulliot va prouver que l'on battait monnaie à Bibracte. Hein. Donc ça, on a une science annexe aussi de l'histoire qui va naître. C'est la numismatique, hein, les fameuses médailles, hein, le cabinet des médailles. On va étudier les pièces de monnaie. Et ensuite, au cours des fouilles suivantes, il va démontrer que l'oppidum était divisé en zones ou en quartiers. Alors tout en bas, près de la porte du rebout, on a le quartier des artisans, des métallurgistes, mais aussi des orfèvres et des émailleurs. C'est le Champlain et la Comme Chaudron. Ensuite, maintenant où on trouve le fameux bassin octogonal, là, c'est l'emporium, donc la fonction commerciale du site.
Alors, emporium, alors figurez-vous, Daniel, vous citez ce terme. Donc, j'ai ouvert mon gaffio et le gaffio dit marché, place de commerce, entrepôt. Voilà
tout
les
à
définitions
fait.
Et donc, de emporium.
Emporium, voilà. Et là, les fouilles, même maintenant, on a essayé de protéger ça, j'en parlerai tout à l'heure, parce que le gros problème, ça sera le fait que des fouilles vont être ensevelies à la fin de chaque campagne. Bon, donc je continue. La fonction religieuse.
Alors, Daniel, pardonnez-moi, il y a tout de même un art que ces Gaulois, ces Éduins, très précisément, ont honoré. C'est l'émaillerie.
Oui, tout à fait. Et c'est très beau. On peut parler aussi des fibules. Hein. Vous savez, l'ancêtre de l'épingle à nourrice. Et on trouvera des fibules incrustées. Donc, l'art de l'émaillerie, c'est le sujet d'un livre, hein, d'un mémoire de Bulliot qui s'est intéressé donc, de très près à cette technique. Hein. Donc là, il va vraiment démontrer que c'était une civilisation très brillante.
Alors que par exemple, Napoléon III, faisant œuvre d'historien, considérait tout de même les Gaulois comme des demi-sauvages. C'est un peu l'image que l'on a du Gaulois avec ses brins un peu primaires. alors que finalement les peuples gaulois, alors là nous sommes chez les Éduins,
oui,
c'est-à-dire le ceux qui habitaient la Nièvre et
oui,
la Saône-et-Loire, enfin la Bourgogne du
oui,
Sud,
la Bourgogne,
pour être peut-être plus précis.
Il y a Lyon un petit peu aussi.
Mais ouais, il y a les ouais. Arvernes, il y a les Carnudes, il y a des tas d'autres peuplades gauloises. Mais ces Éduins, selon vous, Daniel Jankowski, sont les plus brillants, ont la civilisation la plus avancée?
Non, ça je ne voudrais pas dire ça. Hein. Je pense que tous les peuples gaulois étaient sans doute brillants, mais les savants de cette époque-là, eux, avaient des tas d'a priori que Bulio va réfuter. Hein, justement, pour la plupart des savants, la vraie civilisation ne commence qu'après la défaite d'Alésia en 52 avant Jésus-Christ. En fait, c'est la fameuse, alors je vais citer moins bien que vous le latin, c'est la fameuse Pax Augusta Pax Romana, qui en fait n'est qu'un prétexte pour mieux cautionner l'impérialisme romain en décrivant les Gaulois comme des barbares. Donc Bulio, lui, va vraiment prouver le contraire par ses fouilles, hein, puisqu'il va récolter tout le matériel, ça c'est important, qu'il va trouver au cours de chaque campagne de fouilles. Il va travailler avec des méthodes scientifiques, il va dessiner ce matériel, il va faire des relevés, et quand il ne peut pas le faire lui-même, il fait appel à des topographes de l'armée pour relever le plan du Beuvray.
Alors que deviennent ces objets trouvés, par exemple sur le site du Mont Beuvray? Alors, où sont-ils placés en sécurité?
Alors, ils sont envoyés par les bons soins donc de Bulio. Tout d'abord, c'est logique, puisque c'est l'empereur jusqu'en 1870 qui subventionne les fouilles. Ils sont envoyés au musée des Antiquités nationales. Il y a aussi la part du vicomte d'Abbeville qui donnera tout par la suite au musée Rollin. Et quelques objets...
Donc le vicomte d'Abbeville qui était en partie propriétaire
d'une
site,
partie
du Mont
du site. Et c'est la raison pour laquelle à la fin de chaque campagne, c'était un accord hein, qui avait été conclu, donc les fouilles étaient remblayées. Donc ce qui explique l'attitude de Bulio, qui est une attitude très scientifique, il note absolument tout. Donc il passe 5 mois de l'année, parfois même jusqu'en début novembre, il reste donc sur le Beuvray, et ensuite, pendant l'hiver, il entreprend encore des fouilles à Autun, mais il consacre ses soirées à peaufiner, si vous voulez, ses recherches. Et on a donc les fameux carnets de fouilles de l'antiquaire, une dizaine de carnets qui ont été légués à Joseph Deschlette. Ils sont conservés au musée donc, de Roanne, et maintenant ils ont été numérisés. Et ces carnets, on a des extraits donc, à l'intérieur de mon livre, et c'est très émouvant parce qu'on voit la façon, donc c'est l'écriture du Bulio, et on voit qu'à la fin de sa vie, il devait être atteint de la maladie de Parkinson, donc l'écriture était tremblotante, tout ça. Mais Jacques-Gabriel Bulio avait un impératif, il voulait absolument prouver tout ce qu'il écrivait. Et ça, c'est quelque chose, c'était un précurseur dans ce domaine-là. Hein, il entre bien dans la lignée d'Arcisse de Caumont, de ces archéologues qui vont naître au XIXe siècle, en s'appuyant sur toutes les sciences annexes donc de l'histoire, la numismatique, l'épigraphie, hein, l'étude donc des inscriptions sur tous les matériaux durables, que ça soit la pierre, le fer, l'argile, etc. La linguistique aussi, voilà, c'est nouveau.
Jacques-Gabriel Bulio, forcément, a beaucoup écrit, beaucoup analysé,
ah oui.
Mais est-ce que les Éduins ont laissé des traces écrites? La culture gauloise est essentiellement orale.
C'est ça un peu, si vous voulez, le souci. Je pense que c'est quelque chose qui les a sans doute discrédités. Hein, les Grecs, puis les Romains, ont écrit sur les peuples gaulois, mais eux n'ont pas laissé de traces écrites.
Alors, il y a Strabon, par exemple.
Orale, oui, voilà.
Strabon, qui est un historien latin, grec. Mais qui n'est jamais venu en Gaule chevelu,
oui,
par exemple.
Oui, tout à fait. Oui, ça,
alors
c'est,
que César est venu à Bibracte.
César.
Alors j'aimerais justement qu'on parle. Il y a deux figures ennemies qui sont venues dans cette Bibracte sur le mont Beuvray, plus de 800 mètres d'altitude. Il y a César.
Et avant,
vers Saint-Gétorix. Alors là, c'est quand même notre histoire nationale.
Oui, c'est notre histoire nationale. Donc là, on se trouve dans la partie près de la porte du Rebout. Donc on continue, si vous voulez, après le quartier de la Côme-Chaudron et du Champlain. Donc on va en direction de la fameuse pierre du Concilium de la Vivre. Hein, donc ça s'écrit W-I-V-R-E. Hein, donc voilà, où vers Saint-Gétorix a harangué les tribus gauloises pour les appeler à la révolte contre les Romains. Et ensuite, comme vous l'avez dit, au cours de l'hiver 52-51 avant Jésus-Christ, Jules César va passer quelque temps à Bibracte avec son secrétaire Aulus Plautius pour rédiger les premiers livres de la guerre des Gaules. Donc on a deux choses, et d'ailleurs on a l'emplacement d'un petit camp romain sur la Chaume au sommet du Beuvray.
Alors on est pratiquement au terme de notre échange, Daniel Jankowski. Aujourd'hui, on peut se rendre sur le mont Beuvray, bien évidemment, on peut voir Bibracte. Oui. Que peut-on voir aujourd'hui, parce qu'il y a un super superbe musée,
très grand.
C'est alors c'est encore François Mitterrand qui a beaucoup fait en ce sens.
Le musée est tout à fait extraordinaire. Hein. On a vraiment une idée, peut-être, je pense qu'il faut sans doute déjà visiter le musée avant de se lancer dans la visite de l'oppidum. Comme je vous l'ai dit, c'est par zone ou quartier. Hein. Donc ensuite, on va trouver, on a deux superbes domus. On avait parlé du quartier de la Côme-Chaudron, du Champlain, de l'Emporium. Ensuite, on a le parc aux chevaux, le quartier résidentiel des nobles. Et enfin, tout au sommet, on a la chaume avec un fanum. C'est le quartier religieux.
Il y a aussi un temple. Les restes d'un temple, puisqu'il y avait la déesse Bibracte.
Oui.
Et alors, on trouve toujours, parce que Jacques-Gabriel Bulliot va fouiller le site durant plus de 10 ans.
Non, il fouille le site pendant 1867 à 1895, donc c'est plus d'une vingtaine d'années.
Un peu moins de 30 ans. Oui,
un peu moins de 30 ans.
Et il fait construire alors une petite chapelle
Après, la chapelle en l'honneur de Saint-Martin, hein, l'apôtre de la christianisation de la Gaule, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Hein. Et il va se passionner parce qu'il va faire aussi de l'archéologie dans la région. Il va rechercher tous les noms d'abbayes, de prieurés, il va aller jusque dans Lyon, qui portaient le vocable de Saint-Martin. Il était vraiment passionné par le personnage. Donc Gabriel Bulliot parle des Éduins de cette façon-là. « Sur ce plateau solitaire, mort bien-aimé, mon œil vous cherche en vain. » Parmi ces solitudes silencieuses. Faites-moi connaître le lieu où vous habitez, mon cœur ira vous trouver. C'est quelque chose de tout à fait représentatif, de mystique, de romantique de son époque, où l'on parlait de nos ancêtres, les Gaulois.
Jacques-Gabriel Bulliot, l'inventeur de la Bibracte gauloise, c'est le titre de votre dernier ouvrage, Daniel Jankowski, aux éditions Raison et Passion. Donc, l'hommage que vous rendez à cet homme, cet archéologue qui, effectivement, a mené le combat pour imposer vraiment le site du mont Beuvray comme ayant abrité Bibracte et non pas Autun. Autun est une ville romaine.
Donc, Bulliot va rétablir la vérité historique et il va acquérir, on peut dire, une renommée nationale. Hein. Ça, c'est très important. C'est quelqu'un qui sera, si vous voulez, il va résumer tous ses travaux sur Bibracte dans Fouilles du Mont Beuvray, donc l'ancienne Bibracte, de 1865 à 1897. Voilà, c'est un ouvrage, ça sera publié en 1899, c'est un ouvrage très complet.
Et Jacques Gabriel Bulliot est mort il y a 120 ans maintenant,
voilà,
en 1902 à Autun.
Oui, tout à fait.
Je redonne la référence de votre essai, Daniel Jankowski, Jacques Gabriel Bulliot, l'inventeur de la bibracte gauloise. Merci Daniel Jankowski d'être venu devant le micro de l'émission littéraire de Radion.
Merci beaucoup à vous aussi, Yannick, donc de m'avoir accueilli pour que je puisse parler de Jacques Gabriel Bulliot. Et j'aurai encore des tas de choses à dire.
Et de culture éduaine, ce qui nous fait le plus grand bien. En tout cas, oui. Pour celles et ceux qui ont manqué une partie de cette émission, pas d'inquiétude, on la retrouve via Internet sur le www.yannickpetit.fr. Bon congé de fin de semaine à vous, Daniel Jankowski.
Merci
bon retour
beaucoup.
Au Creusot et merci d'être venu devant ce micro. Et puis, bien évidemment, vous pouvez continuer à nous suivre, Daniel, sur les podcasts de l'émission, sur la page Facebook de l'émission. Et puis, rendez-vous pour les auditrices et auditeurs samedi prochain, toujours à 11h sur Radion. Merci encore, au revoir et à la semaine prochaine.
Au revoir à vous, Yannick, aussi. Thank you.